Oui. Bonjour, merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Galère pour cette nouvelle édition des carnets hebdomadaires de Comaguerre. On commence avec un petit peu de retard, mais on va essayer de le rattraper. Et je voudrais vous parler d'une réunion qui s'est tenue ces derniers jours en Suisse et qui est un des rouages du système de domination capitaliste. Alors, son rouage est connu, mais c'est toujours intéressant de s'arrêter sur son fonctionnement et sur ses évolutions. Il s'agit du groupe de Bilderberg. On en a déjà parlé à cette antenne, c'est évoqué assez régulièrement, au moins chaque année au moment de ces réunions, qui se tiennent sans discontinuité, avec une très très grande régularité, depuis l'année de la formation du groupe de Bilderberg en 1954. Alors d'où vient ce nom un peu étrange, mais qui maintenant est familier du fait de l'existence de ce groupe? C'est le nom d'un hôtel où s'est réuni pour la première fois, à l'invitation du prince Bernard des Pays-Bas, c'est-à-dire le mari de la reine Juliana. Lui, il était donc le prince consort, la pièce rapportée dans la lignée royale des Pays-Bas. Et donc ce prince Bernard, qui avait cette particularité d'avoir été dans sa jeunesse, il était allemand d'origine, et il avait cette particularité d'avoir été très, très proche des nazis dans sa jeunesse, avant d'épouser Madame Juliana, la reine des Pays-Bas. Mais ça, c'est un détail de son histoire personnelle. Toujours est-il qu'il crée le groupe de Bilderberg en 1954, et ce groupe de Bilderberg a un objectif affiché, c'est de réunir de part et d'autre de l'Atlantique les Européens et les Américains, les États-Unis, dirions-nous aujourd'hui, plus les Canadiens d'ailleurs, dans ce qui est lancé depuis quelque temps déjà, la guerre froide, mais pour lui donner un enracinement beaucoup plus profond dans les forces économiques et sociales vives, enfin chez les puissants, et pas simplement entre les politiques et entre les gouvernements. C'est-à-dire c'est un enracinement de la guerre froide dans la vie quotidienne des entreprises, et donc c'est un endroit où on se rencontre entre puissants. Alors entre puissants de différentes catégories, ce sont des puissants politiques, bien entendu, des ministres, des premiers ministres, des secrétaires d'État ici et là. Ce sont bien entendu des chefs d'entreprise stratégiques, il ne s'agit pas de la PME du coin, pas de votre plombier, fut-il polonais. Et il s'agit donc de PDG de grandes entreprises, entreprises métallurgiques, chimiques, dans lesquelles l'armement tient une place tout à fait importante, puisqu'il s'agit effectivement d'une alliance, l'alliance économique qui est l'autre face de l'alliance militaire qui est l'OTAN, hein, il faut bien voir ça, Bilderberg égale symétrique économique et sociale de l'OTAN militaire. Et puis, j'allais dire, l'environnement médiatique, qui est une question qui est travaillée avec soin par les fondateurs du groupe, c'est-à-dire la pensée des dominants doit être organisée de telle façon qu'elle puisse pénétrer profondément dans la tête des dominés. Et là, on a toute une stratégie dont les États-Unis ont été les concepteurs et les maîtres, mais qui avait aussi ses écoles en Europe. Il s'agit donc de trouver des médias, le système existe toujours, qui fassent rentrer dans la tête des dominés, c'est-à-dire dans la tête de la grande majorité de la population, les objectifs poursuivis pour la période à venir par les dominants. Alors la période à venir, ça se fait tous les ans, donc c'est une mise à jour bien entendu, et il n'y a jamais eu d'année où ce groupe de Bilderberg ne se soit pas réuni depuis 1954. La composition est fixée dans les principes, puisqu'il s'agit donc d'un groupe transatlantique, un tiers de représentants des États-Unis et du Canada d'un côté, deux tiers de représentants de l'Europe. Alors pourquoi cette disproportion dans les nombres? Simplement parce qu'il faut plus d'Européens dans la mesure où il faut que chacun des États, qui à l'époque, on est en 1954, fait partie de l'Europe occidentale, donc l'Europe sous domination de l'OTAN et sous contrôle des États-Unis, il faut que chacun des États soit représenté, fût-ce modestement. Et donc on en est toujours là, ce rapport, un tiers venant de l'ouest de l'Atlantique et deux tiers venant d'Europe. Cette composition n'est pas modifiée. Et puis le troisième aspect, c'est les sujets abordés. C'est-à-dire comme il s'agit très clairement de maintenir les dominants, la domination sur les dominés, et comme il s'agit de faire front à ce qui a été avancé, on est dans le discours classique de la guerre froide, comme une menace soviétique, alors qu'il n'est pas une menace militaire, elle ne l'a jamais été, malgré tous les discours qu'il y a eu là-dessus. On n'a aucune trace, aucun discours, aucun document de l'URSS, et pas plus on en a trouvé au moment où l'URSS est tombée, qu'on n'a aucune trace du fait qu'il y a eu préparation militaire d'une action de l'URSS vis-à-vis de l'Europe occidentale. Ça a été fabriqué comme ça, il fallait qu'il y ait une menace pour justifier la présence militaire des États-Unis sur le sol ouest européen. Par contre, effectivement, la menace, et ça, il est inutile de le nier, c'est même pas du tout utile de le nier, puis ça fait partie du dispositif, la menace, elle est de type politico-idéologique. C'est-à-dire qu'on a, de l'autre côté de ce qui, en 1954, est déjà le rideau de fer qui a été tiré par Winston Churchill, je le rappelle, avec le soutien du président Truman américain. De l'autre côté, on a affaire à une autre économie, une économie où les moyens de production ne sont pas entre les mains de groupes capitalistes. Et donc, effectivement, la menace, elle est là. C'est-à-dire que tous ces gens, et on va s'arrêter sur la liste de ceux qui fréquentent ou qui ont fréquenté la dernière réunion de Bilderberg, tous ces gens-là ne veulent surtout pas que les moyens de production de leur entreprise à eux tombent entre les mains de la nation, donc soient nationalisés. Il s'agit bien d'éviter toute nationalisation et de regarder un régime privé de la propriété des moyens de production. C'est tout à fait clair et ça n'a pas changé du tout depuis 1954, c'est-à-dire qu'il y a une grande stabilité dans cet objectif politico-idéologique. Éviter qu'un système où il y a donc des moyens publics, la propriété publique des moyens, des principaux moyens de production existe, c'est un défi au système capitaliste, qu'il soit sous la forme néolibérale ou à l'époque il n'était pas tout à fait sous une forme social-démocratisée, mais la menace est la même, elle n'a pas bougé et vous allez voir à l'énoncé des thèmes des discussions, car chaque année, le groupe de Bilderberg, qui est structuré, qui a un secrétariat permanent, qui donc prépare la réunion de l'année à venir, met des thèmes en débat. Alors, en quoi consistent les débats ? Ben les débats, c'est assez simple. On a là, réunis autour d'une table ou dans des salons ad hoc, une série de personnages qui sont tous très influents, qu'ils soient donc ministres, chefs de gouvernement, PDG de très très grosses entreprises comme Total, de ce niveau-là, vous voyez. Et puis quelques journalistes qui sont là justement pour distiller dans la tête des peuples les objectifs et les besoins et les volontés des dominants. Il y a aussi tout cet environnement de journalistes ou d'universitaires qui servent à la même besoin. Donc influencer la pensée des citoyens contemporains à différents niveaux. C'est-à-dire ça peut être au niveau d'un journal de masse destiné à faire un écho dans une grande catégorie de la population, ou ça peut être des moyens plus raffinés, alors au niveau des think tanks, qu'on appelle ça comme ça, des centres de réflexion qui sont destinés à orienter la pensée des universitaires, des cadres moyens et supérieurs, des gens qui vont accéder à des directions d'entreprise. Donc il y a différents niveaux d'intervention pour la manipulation des cerveaux, un niveau basique, élémentaire, et puis des niveaux de plus en plus sophistiqués qui sont tenus donc par des structures spécialisées qui se sont depuis, à l'époque, les think tanks, comme on les appelle, n'existaient pas, mais ils étaient en germe. Maintenant, il en existe beaucoup. Et à telle enseigne que le responsable, donc l'animateur du secrétariat permanent du groupe de Bilderberg, il y a des gens qui s'occupent de ça toute l'année pour tenir cette réunion annuelle, donc qui s'est tenue ces derniers jours, le week-end dernier en Suisse, passe son temps, ça c'est le gros de son activité, il s'appelle monsieur, il est français, c'est un vieux routier du groupe de Bilderberg, ça veut dire qu'il faut le considérer comme un des personnages du business français qui a les relations les plus étroites possibles avec le business américain, le business britannique, le business allemand, etc., qui a une vision très globale, occidentale du système capitaliste, qui est un de ses défenseurs les mieux organisés. Il s'appelle M. Henri de Castries. Et en fait, il était jusqu'à il y a peu, je crois 2-3 ans, PDG de la société d'assurance AXA. Et puis, l'âge arrivant, il s'est retiré de cette présidence, qui est passée à un autre d'ailleurs. Et depuis, il préside aux destinées de l'Institut Montaigne. Alors retenez ce nom, l'Institut de Montaigne est un des endroits où s'élabore, j'allais le dire très simplement, la propagande pro-capitaliste à destination des classes éduquées de la société. Alors ça ne va pas être mis dans certains journaux sans les mépriser, mais c'est destiné, je dirais, à ces couches intermédiaires qu'il faut rallier, mais sans trop les brutaliser ou en leur donnant l'illusion qu'elles ont encore une capacité autonome de réflexion et en leur insufflant donc quand même une bonne orientation en les polarisant du côté de la sauvegarde du régime capitaliste libéral. Mais ça se fait avec plus de tact que les gros sabots de la propagande. Alors c'est vrai que rendu à ce niveau-là de la propagande telle qu'elle se pratique aujourd'hui, on a l'impression qu'on sort d'un espèce de Moyen-Âge ou même d'une préhistoire de la propagande, c'est-à-dire que les discours très lourds d'un Goebbels, donc du temps de l'hitlérisme, paraissent un petit peu dépassés. Et on se dit, la propagande, c'est sophistiqué, elle fait un travail plus ciblé par catégorie, par type de discours, etc. Mais au fond, le travail reste le même. Il s'agit donc d'obliger la population à ces différents niveaux hiérarchiques à penser comme il faut, c'est-à-dire dans le sens des dominants. Nous voilà donc à la tête de cette réunion du groupe de Bilderberg, donc qui se réunit tous les ans. Ça représente autour de 150 participants, parce qu'il faut donc ce tiers d'Américains, les deux tiers d'Européens. Et ils s'enferment tous ensemble dans une résidence, en général un hôtel qui est réservé pour ça, pour 3 jours. Et ils discutent librement. C'est-à-dire que le principe est simple. Le secrétaire affiche des thèmes de réflexion. Alors ces thèmes de réflexion sont sans surprise puisqu'il s'agit des préoccupations au moment où s'élabore le programme et au moment où ces messieurs-dames se réunissent. Il s'agit des préoccupations du grand capital transnational qui pense et qui prépare son avenir. Et rien de plus et rien de moins. La règle est que donc chacun vient. Il n'est accompagné de personne, il vient en tant que personne physique, il peut librement discuter avec chacun des 150 autres participants, il n'est fait aucune relation des discussions à 2, à 3, à 4, dans les couloirs, dans les chambres le soir, ou autour d'un whisky quelque part en fin de journée, il n'est fait aucune relation de ça, il n'y a pas de compte-rendu des débats, simplement il s'agit d'une espèce d'harmonisation de la pensée des dominants pour faire face aux défis des dominés et au défi de la situation telle qu'ils la vivent. Et pour bien vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que les sujets qui les inquiètent, je vais vous en donner une liste qui a été publiée, donc il n'y a pas de surprise de ce côté-là, qui a été publiée par le secrétariat, donc dirigé par M. De Castries. Alors, le premier thème, c'est une stabilité stratégique mondiale. Alors, effectivement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et on l'a compris, ces messieurs-dames sont assez préoccupés par l'émergence de ce qu'on appelle le monde multipolaire, la puissance nouvelle, ou au moins la façon dont la Russie se fait respecter, la puissance économique nouvelle de la Chine, qui devient le partenaire principal de beaucoup d'économies internationales, y compris des économies capitalistes. Ça, c'est le thème global, c'est la toile de fond des cauchemars, si cauchemar ils font, de ces messieurs-dames. Et si cauchemar il y a, ils le soignent, mais d'une façon un peu particulière, j'y reviendrai. Sur cette toile de fond, on va greffer un thème encore plus précis, puisque ça a été annoncé. Il y a le futur du capitalisme. Alors là, ça veut dire quand même, c'est pas tous les ans depuis 1954 que cette question est à l'ordre du jour. Ça veut dire que si elle arrive à l'ordre du jour, c'est qu'il y a une inquiétude réelle. Réel, parce que ça veut dire, est-ce que le capitalisme a un futur ? Et effectivement, quand on sait que la deuxième puissance économique mondiale en voie de devenir très très rapidement la première, n'est pas une puissance capitaliste, c'est une puissance qui est dirigée par un parti communiste, avec un système de représentation de la population très particulier, qui n'a rien à voir avec les systèmes dits démocratiques fonctionnant en Occident, pour faire simple, que ces messieurs mettent ce sujet-là à l'ordre du jour, prouve quand même que, d'une façon un peu latente, il y a des questions. Où va-t-on ? Et alors, ces questions, j'allais dire, sont renforcées par le fait, je l'ai souvent souligné à cette antenne, que l'économie capitaliste dont ces messieurs sont les héros, pas héros, héros, hein, les héros, les porteurs, les RAUT, les héros, l'économie capitaliste n'est pas en très très bonne santé. C'est-à-dire que, quand on la mesure en particulier dans les sacro-saints taux de croissance, donc la progression de la production, les taux de croissance de l'économie capitaliste occidentale, que ce soit aux États-Unis où c'est un peu meilleur, ou en Europe où c'est franchement médiocre, ne sont pas à la hauteur des taux de croissance chinois et sont même inférieurs aux taux de croissance de beaucoup d'autres pays, dits des émergents dans le tiers-monde, en Asie en particulier. Et donc, effectivement, c'est à juste titre qu'ils se disent quel est le futur du capitalisme. Ils se le disent d'autant mieux qu'ils voient arriver sur le marché qu'ils considéraient comme leur chasse gardée, des entreprises venant de ce nouveau monde émergent qui viennent commencer à leur tailler des croupières à des endroits où ils considéraient être les seuls maîtres du jeu. Je pense en particulier, on en a déjà parlé et ça revient assez souvent sous la plume des gazetiers, à la question donc du téléphone portable, de la 5G, avec l'arrivée donc de ce mammouth chinois qui s'appelle Huawei et qui est très en avance et qui est en train d'imposer son système, donc la 5G, aux autres compétiteurs américains ou européens. Et ça, effectivement, c'est la première fois dans l'histoire de l'industrie contemporaine, depuis les débuts donc, de la révolution industrielle, depuis la moitié du 18e siècle, c'est la première fois qu'une entreprise venant d'un pays considéré comme du tiers-monde, il n'y a pas si longtemps, il y a 30 ans, est en train de tailler des croupières et de prendre des places sur les marchés aux entreprises des pays colonisateurs dominants. Alors ça, c'est effectivement une réelle inquiétude. Et puis, tout ça se lie à des mouvements sociaux divers, des critiques, des crises ici et là, qui fait qu'effectivement, le régime capitaliste est contesté ou mis en question parce qu'il ne répond pas. Alors, à certaines périodes, il a distribué un peu d'argent à toutes les couches sociales pour se faire accepter. Et puis là, vu la difficulté économique générale, depuis 2008 en particulier, là, il y a moins d'argent à dépasser, on serre les budgets. Et donc, la population se dit « mais le capitalisme, ça ne profite qu'aux capitalistes ». Bonne réaction d'ailleurs, on aurait dû commencer par ça plutôt que de croire qu'il nous voulait du bien. Ça, c'est le deuxième thème central. Et puis après, il y a Russie et Chine. Alors, sans commentaire, bon, on voit bien d'où viennent les inquiétudes. Et puis, il y a un commentaire, un thème nouveau qui est très intéressant, qui est la transformation en arme des médias sociaux. Alors, ça la formule en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire transformer les médias sociaux en armes ? Ça veut dire que ces messieurs ont une réelle inquiétude, c'est-à-dire que bien qu'ils aient tout organisé, et j'en parlais tout à l'heure au moment où je vous disais les faiseurs d'opinion font partie structurellement du groupe de Bilderberg, bien qu'ils aient tout organisé, ils s'aperçoivent qu'à travers ce qu'on appelle les réseaux sociaux, vous savez tous de quoi il s'agit, il circule des discours qui mettent ici et là en question leur domination, ou qui mettent en question leurs mensonges, ou qui mettent en question leur manipulation. Et donc, ils disent, ces médias sociaux qu'ils ont contribué à fabriquer, bien entendu, eux-mêmes, puisque c'est à travers Internet puis un certain nombre de grandes entreprises dont vous connaissez les noms, que je ne rappelle pas puisque la publicité n'est pas payée sur cette radio. Donc, ces moyens sont en train de devenir dangereux, c'est-à-dire qu'à certains moments, se retournent contre les dominants et tiennent un discours souvent très, très opposé à celui qu'ils auraient voulu faire entendre avec leurs médias traditionnels. Je veux parler des grands organes de presse écrites, les grandes radios publiques ou privées, les grandes chaînes de télévision publiques ou privées. Tout ça est secoué par l'organisation et la réaction qui est des populations dans les médias sociaux. Autre thème, le Brexit. Alors, vraie question, puisque au fait, de recul d'échéance en recul d'échéance, avec sur la toile de fond la démission de Madame May, l'émergence du parti pro-Brexit, l'émergence spectaculaire du parti pro-Brexit aux élections européennes, la question reste entière, comment tout cela va-t-il se finir ? Bien malin serait celui qui pourrait le dire, encore que de plus en plus d'opinions et surtout de prises de décisions concrètes sur des sujets économiques au jour le jour laissent penser que du côté des pays qui resteront dans l'Union européenne, au moins un certain temps après le départ de la Grande-Bretagne, on s'apprête quand même à ce qu'on appelle le départ sec, c'est-à-dire le départ sans négociation. C'est-à-dire qu'un beau jour, qui sera je crois le 1er novembre de cette année, si l'échéance n'est pas reculée une nouvelle fois, la frontière sera fermée. Et donc il faudra s'être préparé à l'avance dans les systèmes douaniers, les systèmes de contrôle des frontières, etc., pour que ce jour-là marque effectivement une rupture. On verra. Et puis bien entendu, en toile de fond de cette question du Brexit, où va l'Europe, évidemment. Et puis on passe à des sujets dont on parle beaucoup et qui sont mis à la mode aussi dans tous ces médias dominants, l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Alors sous ce vocable-là, en fait, on est en train d'essayer de vous faire avaler, vous qui m'écoutez, et à toute cette population de dominés, on est en train de vous faire avaler l'idée que le système productif est en train de changer. Alors effectivement, on le sait à travers toute une série de mécanismes électroniques, l'informatique, les robots, etc. On est en train, et les algorithmes, vous avez tous entendu parler de ça, de dire qu'il y a un nouveau système de production qui se met en place. Simplement, il s'agit là, en parlant de l'intelligence artificielle, de faire croire qu'il s'agit d'une intelligence neutre qui ne fait pas des choix. Alors, ce n'est pas vrai du tout, du tout. C'est-à-dire que les usages nouveaux de l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de la robotique, de tous les systèmes de contrôle via Internet, etc., sont destinés à augmenter ou au moins à maintenir les gains des grands capitalistes. Alors que, effectivement, sur la base des papiers, enfin, un algorithme en mathématiques, ça ne sert pas à gagner de l'argent. Ça sert à gagner de l'argent quand il est entre les mains d'un groupe qui a beaucoup d'argent pour s'en servir à son profit. C'est ça qu'on essaye de nous vendre. Ah, l'intelligence artificielle, c'est bien. Hein, pourquoi ne pas l'utiliser ? Oui, effectivement, mais ceux qui disent ça, c'est ceux qui veulent faire des bénéfices avec l'intelligence artificielle. Et puis à la fin, mais ça, c'est un effet de mode, ils parlent du changement climatique. Mais au fond, c'est pas le cœur du sujet. Et puis, quand ils se disent le futur du capitalisme, c'est tout de suite maintenant, dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent, le changement climatique, on a toute une série d'indications disant que ça ne les empêche pas de dormir. Mais ils voudraient que ce soit nous qui dormions mal à cause du changement climatique. Car que font-ils ? Que font-ils pour éviter le changement climatique ? Alors, je vais vous donner une indication qui va vous paraître un peu décalée. Et pourtant, elle est très, très intéressante. Il se tient des statistiques de la flotte mondiale, c'est-à-dire l'ensemble des bateaux de commerce, je ne parle pas des bateaux de guerre, des bateaux de commerce qui transportent à fil d'année des minerais, du gaz, des containers avec des tas de produits dedans, des chars d'assaut, des hélicoptères, en fait, tout ce que l'humanité fabrique, ça circule de plus en plus sur les mers. Et vous pourrez dire, alors on sait qu'effectivement, les navires consomment du gasoil, qui lui-même contient du soufre, on essaierait qu'il y en ait un peu moins, mais enfin, il contient du soufre. Une partie des nouveaux navires seront alimentés avec du gaz, mais il aura quand même fallu l'extraire du sous-sol, donc c'est bien aussi un produit de la nature. Bon, donc je vais vous donner un chiffre. Depuis 7 ans, écoutez bien, donc ça fait plus de ça qu'on parle COP ceci, COP cela, COP truc, vous savez que depuis plus longtemps qu'il y a 7 ans, on parle de changement climatique. Eh bien, la flotte de commerce mondiale a doublé en 7 ans. Ce qui veut dire que le nombre de navires transportant du pétrole, du charbon, du minerai, du blé et tous les produits manufacturés dans des containers a doublé. Et quand vous entendez ce genre d'affirmation, vous dites « mais qui sont les gens qui décident ?» Parce que ça veut dire qu'il y a des armateurs qui sont des compagnies privées ou dans certains cas des compagnies d'État, mais dans la plupart des cas, c'est une compagnie privée. Il y a des porteurs de capitaux, cette fraction du capitalisme qui s'intéresse au transport maritime, qui décident d'acheter des bateaux neufs qui coûtent fort cher. Et quand on a décidé de les construire, il faut à peu près 2-3 ans pour les avoir. Et donc tous ces gens-là anticipe une augmentation importante du transport sur les mers de tous les types de produits que fabrique aujourd'hui l'humanité. Alors quand on sait effectivement que ces navires-là polluent, on se dit, est-ce qu'ils se préoccupent vraiment de la pollution atmosphérique ? Il est permis d'en douter, ce que je me permets de faire moi-même devant vous. Voilà, donc ça c'était l'agenda du Bilderberg et ces messieurs qui sont là. Bon. Ces messieurs, alors on va les décrire un peu plus parce que ce Bilderberg a une fonction, donc de les rassembler pour parler de leur avenir commun. Et en même temps, on n'en parle pas avec n'importe qui. Et je vais vous donner quelques indications sur les personnages principaux. Donc je vous ai parlé du président, donc l'organisateur qui présidera lui-même la séance qui se tient donc en Suisse, qui s'est tenue vendredi, samedi et dimanche en Suisse, M. Henri de Castries, aujourd'hui président de l'Institut Montaigne, après avoir été le PDG d'AXA. Je vais commencer, je vais m'arrêter sur un certain nombre de noms que je prends par ordre alphabétique et faire un petit commentaire sur chacun. On retrouve là Madame Audrey Azoulay, alors ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais elle a quand même été ministre, probablement socialiste, allez, je ne sais plus si l'épithète a encore une signification. Madame Audrey Azoulay est depuis directeur général de l'UNESCO. Donc oui, l'avenir du capitalisme et l'UNESCO, ça se discute, mais il doit y avoir de bonnes raisons. Je pense que c'est pour la France une façon de se faire briller. Ensuite vient, je suis toujours par l'ordre alphabétique, Madame Patricia Barbizet. Alors c'est un nom que vous ne connaissez pas, mais elle a été très longtemps à la tête du fonds de placement de la maison Pinault. Pinault, ça vous dit quelque chose. Et si elle avait été encore en fonction les 2 mois qui précèdent, au mois d'avril, le jour où Notre-Dame de Paris a flambé, vous auriez vu apparaître son nom, puis c'est elle qui aurait décidé, comme ça, dans le quart d'heure, de sortir 1 million d'euros pour les mettre sur la table. Or, il se trouve qu'elle avait quitté ce poste à la fin de l'année 2018, parce qu'elle a un certain âge maintenant, et que donc elle prépare ses vieux jours, si j'ose dire, sans vouloir la fâcher, mais en ayant une petite boîte à elle, un fonds de placement tranquille, et en étant moins exposée peut-être que dans la gestion des fonds Pinault. Donc c'est un personnage très très important qui fait partie de longue date de Bilderberg. Elle a assisté à plusieurs réunions et elle y est là, et c'est un signe qu'on va reconnaître à d'autres endroits, car les Français et les Européens qui sont acceptés ou invités au groupe de Bilderberg sont en général des Young American Leaders. Alors qu'est-ce que c'est que les Young American Leaders ? C'est en fait une association de promotion dans les élites européennes des jeunes gens ou jeunes femmes, qu'ils soient hommes d'affaires, militaires, chefs de gouvernement ou de parti, qui semblent avoir de l'avenir, mais surtout qui sont bien orientés politiquement, c'est-à-dire, écoutez bien, Young American Leader, leader américain jeune. C'est-à-dire que c'est un système de détection fondé aux États-Unis qui va sélectionner dans les élites montantes, élites, je sais que le terme n'est pas très bon et il est contestable, enfin, dans les personnes qui montent dans les hiérarchies sociales existantes aujourd'hui en Europe, les personnages clairement pro-américains et surtout ceux qui n'ont aucune sympathie pour l'économie socialisée, centralisée et pour la propriété publique des moyens de production. Donc Madame Barbizet est exemplaire à ce titre-là. On retrouve là, il faut le mentionner quand même, Monsieur José Manuel Barroso, vous vous souvenez du président de la Commission européenne, qui depuis, pour se distraire, puisque ça lui manquait ce poste de responsabilité très visible, très important, il n'en pouvait plus d'être content de lui-même, il est devenu simplement PDG de Goldman Sachs International. Ça ne s'invente pas. Vient ensuite M. Clément Beaune, c'est un nom moins connu, mais c'est quand même l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron, puisqu'il est donc un des conseillers du président de la République française pour les questions européennes et les questions de coordination internationale, donc G7, G20, etc. Donc un personnage un peu dans l'ombre par rapport à son président qui n'aime pas que d'autres lui fassent de l'ombre, d'ailleurs on a bien compris, mais qui joue un rôle très très important, et donc il est l'œil d'Emmanuel Macron dans cette réunion, l'envoyé spécial. On trouve ensuite M. Thomas Buberl, qui a succédé à M. De Castries à la tête d'AXA, la boîte d'eau. On trouve après, je reste surtout dans les Français parce que c'est plus intéressant pour vous, c'est les noms que vous pouvez connaître, de M. Patrice Kane, qui est le PDG de Thalès. Alors Thalès, c'est un des 4-5 groupes français qui sont très puissants en matière de vente d'armement. On trouve ensuite M. François Gaudement, qui est aussi de l'Institut Montaigne, donc il est venu dans la suite de son patron, M. De Castries, et qui lui est spécialisé dans les questions asiatiques. Tiens, tiens, donc vous voyez, au sujet, dans les sujets, il y a la Chine. Donc on s'inquiète, qu'est-ce qu'on fait et quels sont les rapports que la France en particulier et son gouvernement va entretenir avec cette Chine et sa nouvelle route de la soie. Rapport un peu ambigu et ensuite, on trouve, alors ça arrive de temps en temps, un syndicaliste américain qui est président d'une association internationale syndicale, donc côté des travailleurs en Paris, il s'appelle M. Mary Kay Henry. En fait, il faut bien comprendre que dans le syndicalisme aux États-Unis, c'est vrai aussi dans certaines autres formes de syndicalisme en Europe, mais là c'est encore plus accusé comme travers. Les présidents de ces organisations syndicales aux États-Unis sont beaucoup plus proches du patronat que de leurs adhérents. Et donc c'est pas surprenant qu'à ce titre, il y ait un représentant donc, des syndicats de fonctionnaires, pas de fonctionnaires, d'employés, disons, de col blanc, venant des États-Unis. Ensuite il y a, alors on peut s'arrêter sur ce nom, Henry Kissinger, qui est un fidèle de toutes ces réunions-là. Il n'en a, je crois, jamais manqué une. Et il est en fait l'homme qui est une espèce de cerveau de la domination depuis donc presque 40 ans maintenant, depuis Nixon, de la domination occidentale sur le reste du monde. Alors, il a de l'âge, j'espère qu'il est encore lucide quelques heures par jour. Toujours est-il qu'il est incontournable comme personnage central et historique de la domination de l'Occident. On trouve ensuite la nouvelle présidente de la CDU, donc qui a remplacé Mme Merkel à la tête du parti et qui la remplacera ensuite à la tête du gouvernement, probablement. Et puis on trouve, je m'arrête un petit instant là-dessus, M. Jared Kushner. Alors Kushner, ne confondez pas avec le nôtre, on en a un, mais ça nous suffit. M. Jared Kushner est le gendre de Donald Trump. Et qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il est gendre de Donald Trump, ça c'est une fonction privée, mais il est aussi au cabinet du président, il est conseiller du président à la Maison-Blanche. Et on sait qu'il est le spécialiste des relations avec Israël. Alors, pour la bonne raison que lui-même est donc proche d'Israël, et qu'il est un des auteurs ou un des propagateurs de cette idée du grand deal qui a donné l'idée à M. Netanyahou, après sa réélection, de dire qu'il y en avait assez des Palestiniens et qu'Israël allait carrément occuper la totalité des territoires, c'est-à-dire la totalité du territoire palestinien, à l'exclusion de l'enclave de Gaza. L'enclave de Gaza ayant dans son esprit une autre vocation, c'était de devenir une colonie du Qatar. Le Qatar donc mettant de l'argent pour que les 2 millions de Gazaouis puissent manger un peu tous les jours, et puis avec des relations idéologiques étroites, puisque le Hamas, qui préside majoritairement aux destinées de Gaza, est proche des frères musulmans qui sont financés partout dans le monde par l'émirat du Qatar. Alors il se trouve, je m'arrête là-dessus, ça déborde un peu sur le cadre du cadre de l'émission, au moins de cette présentation du groupe de Bilderberg, pour vous dire que cette opération donc de disparition de l'autorité palestinienne, d'éradication de toute possibilité d'un gouvernement palestinien, a été contestée ces derniers jours dans un entretien officieux, mais qui s'est retrouvé comme par hasard dans le Washington Post. Alors ce genre d'entretien officieux qui se retrouve dans le Washington Post, ça veut dire qu'effectivement, il n'est pas officieux du tout. Il est destiné à alimenter un débat ou à faire apparaître qu'il y a un débat au sein même de la Maison-Blanche entre les différents conseillers. Et cette fuite a été organisée ni plus ni moins que par M. Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères. Donc on a un conflit